croire que le Seigneur, à l'issue de cette retraite, peut avoir, à l'issue de cette retraite, pour chacun de vous, certaines intentions. Car il ne faut pas que vous quittiez ce lieu de retraite comme vous y êtes venu. Il faut y avoir recueilli quelque chose. Et s'il y a une nouvelle intention de Dieu pour vous, pas nécessairement un changement de lieu ou un changement de cadre, mais sans qu'il y ait changement de lieu, il peut y avoir bien des changements. Des changements intérieurs, d'abord. Et puis, des changements qui peuvent survenir à l'extérieur aussi, toujours dans le même lieu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la Genèse. Nous allons prendre au chapitre 46 de la Genèse. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Amen. C'est un grand changement, un bouleversement que ce départ de Canaan pour l'Égypte de la famille patriarcale. N'oublions pas que c'est la famille sur laquelle repose en cet instant tous les desseins de Dieu. C'est cette famille qui est née d'Abraham, du rocher, comme Dieu le dira. Abraham est comme un rocher d'où le peuple a été taillé. Eh bien, la première taille, la voilà, c'est cette famille patriarcale. Laissez Canaan, dans le chapitre précédent, chapitre 45 et au verset 20, il y avait une parole du Pharaon qui est très bien disposée, puisque vous savez que Joseph est là un grand personnage auprès du Pharaon. Au verset 20, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Mais l'appel de Pharaon, ça c'est l'appel de Pharaon qui a envoyé des chars et tout ce qu'il faut pour le voyage. L'appel de Pharaon est-il celui de Dieu? C'est le problème de Jacob et c'est ce qui s'agite dans sa conscience. Canaan, c'est bien le pays où Abraham a été appelé par Dieu. Et la famille d'Abraham est là. Jacob, par ailleurs, vient d'apprendre que Joseph, ce fils qui était perdu depuis tant d'années, ce fils aimé, est retrouvé. Il ne voulait pas le croire au début. Et puis enfin, devant véritablement les preuves, les assurances qu'on lui donne, il reconnaît que Joseph vit. Allez voir ce fils sur lequel il avait pleuré. Joseph est vivant. Oui, mais Jacob ne risque-t-il pas de suivre ses sentiments? L'appel de Pharaon, bien disposé, suivre ses sentiments, c'est un risque. Et Jacob le mesure, un risque. Comme nous, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, et nous avons à en prendre, et Dieu veut que nous ayons à en prendre, il nous veut majeurs. Eh bien, prendre une décision, c'est délicat, c'est difficile. On peut craindre de céder à ses sentiments, et en effet, d'entendre un appel sans que cet appel soit, puisse être tout de suite reconnu comme celui qui exprime la volonté de Dieu. Alors, va-t-on se lancer? Va-t-on s'engager comme cela? Il faut aller en Égypte. Abraham savait que ce pays d'Égypte était terrible et qu'il était en tout cas païen. Et lui, Abraham, s'était trompé en s'y rendant. Il s'était trompé. Tout avait mal tourné et il, en définitive, Dieu étant intervenu dans la famille de Pharaon par une épreuve, Abraham sera comme chassé d'Égypte et devra s'en aller. Il s'était trompé. Il y avait une famine. Là encore, il y a une famine. Mais doit-on céder à cette raison d'une famine? Enfin, Jacob se décide et se met en route. Il va jusqu'à Beersheba, presque à la frontière de Canaan. C'est le premier départ. Mais la conviction n'est pas acquise en sa conscience. Alors, il s'arrête une journée, il élève son âme à Dieu, il offre des sacrifices avant d'aller plus loin, il fait ce que plus tard bien d'autres hommes feront, ce que nous devons faire nous aussi, ce qu'a fait l'apôtre Paul. Je ne consultais pas la chair et le sang. Certainement que si Paul dit ça, c'est que la chair et le sang s'étaient manifestés, avaient eu des suggestions. On pourrait faire ceci, on pourrait aller par là. Je ne consultais pas la chair et le sang. Ah, chers amis, il y a des moments, justement, où Dieu nous met, nous place là au carrefour. Consulter la chair et le sang, ça c'est agréable en général. Obéir à l'envie que l'on a, l'impression que l'on a qu'il est utile et bon d'aller dans telle direction. C'est Dieu qu'il faut consulter. Il faut consulter Dieu et prendre garde de laisser l'appel ou le conseil de la chair de côté. Et pour cela, pour consulter Dieu, Jacob offre des sacrifices. Et l'on dira, mais que faut-il faire aujourd'hui pour consulter Dieu? Faut prier, dira-t-on. Oui, mais bien des gens ont fait l'expérience que la prière de demande, la simple demande à Dieu d'une direction, ne reçoit pas toujours réponse. J'ai connu bien des chrétiens, j'en vois toujours, qui me disent « Dieu ne m'a pas répondu ». Il y manque le sacrifice tout simplement. On n'a pas offert sa vie en sacrifice. Et c'est ça qui manque. Si l'on veut savoir la direction de Dieu, il faut offrir sa vie en sacrifice. Nous sommes des victimes spirituelles qui doivent être offertes à Dieu et qui sont agréables à Dieu. Si la vie n'est pas offerte à Dieu, si nous ne nous offrons pas à Dieu, chaque fois encore, comme tout à nouveau, qu'il faut connaître la direction de Dieu, Dieu ne répondra pas. Le saviez-vous cela? Dieu ne répondra pas. parce qu'il voit bien que le cœur n'est pas pleinement à lui. Il faut offrir sa vie en sacrifice si l'on veut la réponse de Dieu. Si le cœur est désireux d'accomplir la volonté de Dieu, eh bien, alors, ce sera facile d'offrir la vie en sacrifice. Et Dieu répondra. Ici, Dieu répond à Jacob. Jacob, en effet, s'endort pour une nuit de repos après cette journée de sacrifice. Il s'attend à Dieu. Il lui remet son fardeau, son problème, sa recherche. Il ne s'en inquiète plus. Il ne faut pas que nous restions nous-mêmes lorsque nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu nous diriger. Il ne faut pas que nous restions tendus, inquiets, angoissés. Non. Une fois que la vie a été offerte en sacrifice, la prière faite, il faut rester dans la quiétude. Parce qu'alors, n'est-ce pas, il n'y a pas de confiance en Dieu. Et cette quiétude même va manifester la confiance en Dieu. Donc, après toute prière, après toute retraite, comme celle d'aujourd'hui, il faut se reposer maintenant en Dieu. Il faut abandonner tout ce qui pourrait encore être pour nous l'incertitude, et puis il faut se livrer à la paix de Christ, dans l'assurance que Dieu répondra. En effet, pendant la nuit, Jacob a la réponse de Dieu. Pendant la nuit, en effet, le corps se repose. L'esprit jouit d'une liberté plus grande, cela toujours, cela maintenant, comme autrefois, pendant la nuit. L'esprit jouit d'une plus grande liberté. L'esprit du chrétien est en éveil, et vous savez que bien des serviteurs de Dieu, des auxiliaires de Dieu, ont reçu la réponse de Dieu ou des directions de Dieu pendant la nuit. Par exemple, Dieu a parlé ainsi à Laban, à Balaam, à Gédéon, au prophète Nathan, à Salomon, à Zacharie, à l'apôtre Paul aussi, pendant la nuit. Et nous avons ce psaume 16 qui exprime cela. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça le conseiller. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre directeur, c'est-à-dire celui qui donne des directions, notre conseiller. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Et qui peut dire cela, sinon le roi David? Le roi David, cet homme qui savait si bien s'approcher de Dieu. Et puis, vous savez que dans Job, dans le livre de Job, dans le livre de Job, au chapitre 33, nous avons là une assurance extrêmement intéressante, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Sans doute s'imagine-t-on que Dieu va parler d'une manière, or il parle d'une autre. Alors on n'y prend pas garde. On attendait Dieu dans une certaine forme de réponse, et puis c'en est une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Il n'y a pas un mot à changer à cela pour nous. Ce qui s'exprime ici est universel pour tous les temps. Et vous pouvez le prendre aujourd'hui d'une manière absolument totale. Ainsi, vous voyez que le sommeil, donc, est un temps que Dieu peut utiliser. Vous me direz, ah, attention, est-ce que nous ne frôlons pas ici un petit peu le mysticisme, etc. Écoutez, les gens qui tantôt craignent le mysticisme, tantôt tombent dans un mysticisme excessif et complètement dévoyé, eh bien, moi, je ne m'en soucie pas de cela. Il y a la parole de Dieu, et cela nous suffit. Pendant la nuit, il y a un temps qui est propice, aussi faut-il s'endormir dans la prière. L'avons déjà dit cela, l'éveil, dans les psaumes déjà nous l'avons ça, l'éveil, utiliser l'éveil pour s'élever vers le Seigneur, s'approcher de lui. Si l'on n'utilise pas l'éveil, alors bien sûr, on ne se place pas dans les conditions qui plaisent à Dieu. Et il se peut par conséquent que Dieu ne réponde pas à notre attente. Pendant la nuit, Jacob sommeille, et tout à coup, voici une vision, une lumière intérieure, certainement, qui pouvait être extérieure, peu importe, n'est-ce pas, nous le savons, mais une lumière intérieure, cela est sûr. Et puis, un appel. Jacob, Jacob, il s'entend appeler par son nom, me voici, la belle réponse. Jacob fait la réponse de l'esprit, car c'est celle que nous trouvons souvent dans la Bible, cela, me voici, bien des hommes l'ont faite cette réponse, Abraham, me voici Seigneur, Moïse, me voici, Samuel, Ésaïe, me voici, envoie-moi, Seigneur, disait Ésaïe. Et le Seigneur Jésus, il n'a pas attendu d'être sur la terre, déjà là, dans les célestes, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici, quelle belle réponse. Rien d'autre, me voici. Et pensons au conseil du Seigneur Jésus, que votre parole soit oui, oui ou non, non. Et ça, c'est une parole qui est oui, n'est-ce pas? Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. On pourrait dire, ah ben Seigneur, je ne demande pas mieux que de répondre à ton invitation, mais seulement, voilà, laisse-moi faire ceci ou laisse-moi... Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Dieu aime les choses nettes. Me voici. Et Dieu parle à Jacob. Et c'est une chose qui est magnifique. Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Au moins Jacob avait là la révélation de ce qu'allait être la fin de sa longue vie, la fin de sa vie, une fin glorieuse. Joseph, ton fils, te fermera les yeux. Ce qui voulait dire, c'est moi, ton Dieu, qui serai là avec ton fils pour te fermer les yeux, n'est-ce pas? C'est cela que Dieu veut laisser entendre à Jacob. Ton fils te fermera les yeux, mais je ne serai pas absent, moi. Je serai là. Mourir, c'est-à-dire mourir, quitter cette terre avec, à son chevet, le Seigneur. Avoir le Seigneur. Le Seigneur qui nous fait sortir de ce temps, sortir de cette tente, sortir de cette condition qui est la nôtre pour entrer tout de suite dans une autre. Pour entrer dans une autre. Sortir, comme l'a dit le Seigneur Jésus dans Jean 10, « Je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé, il entrera et il sortira. » Alors, ne mettons les choses à l'envers, ça n'a pas d'importance, nous sortons de cette vie et nous entrons dans une autre. On quitte quelque chose et on trouve autre chose, ce sont les pâturages célestes. La vie commence, la vie éternelle commence. Je suis le Dieu de ton Père, le Dieu de ton Père qui est le même et qui veut être le Dieu des fils et le Dieu de tous dans la continuité de ses desseins, le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu de tes pères, de ton Père. Je n'ai qu'un dessein. Il a commencé avec ton père Isaac, avec ton grand-père Abraham, il a commencé là, et mes desseins se poursuivent, c'est toi qui es là maintenant, toi aussi tu vas quitter ce monde, mais mes desseins vont se poursuivre, je te ferai remonter d'Égypte, c'est pas Jacob qui remontera, c'est sa postérité qui remontera d'Égypte. Ne crains point de descendre en Égypte, certes, il y avait des craintes légitimes. Chez Jacob, nous l'avons déjà dit, il y a en effet là des circonstances tout à fait nouvelles, comme cela peut être aujourd'hui pour nous, des circonstances nouvelles. Et Dieu, si nous lui avons laissé la liberté de nous parler, dans une vision, s'il le veut, je sais ce que c'est qu'une vision, j'en ai eu, je sais ce que c'est, je sais comment Dieu parle pendant le sommeil, il m'a parlé, mes amis, il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Il a différentes manières même de parler pendant le sommeil, différentes manières. Mais quand il parle, c'est sûr, ah c'est sûr, personne ne s'y trompe. M'est arrivé par exemple une fois, j'avais fait longuement le soir, dehors, une prière dans laquelle j'avais présenté une requête, une demande et insisté auprès de Dieu. Quelquefois, il faut insister, Dieu aime ça. J'avais dit à Dieu, tu n'es pas le Dieu qui laisse ses enfants dans l'équivoque. Alors, Seigneur, tu me diras. Tu me diras cela. Et j'avais été poussé à insister là-dessus. Et dans la nuit, alors là, dans un profond sommeil, et je vous assure qu'il était profond ce sommeil, en effet, tout à coup je me suis trouvé dans un bonheur. Ah, un sentiment, une sensation, je ne peux pas, je ne sais pas comment il faut le qualifier, d'un bonheur extraordinaire. Ah, c'est là qu'on goûte le bonheur du ciel. Eh oui, on le goûte, on peut le goûter déjà, en avoir quelque avant-goût de ce bonheur. Un bonheur, mais ça se sent, c'est quelque chose d'indescriptible. Un bonheur, puis ça a duré un certain temps, et puis voilà que, alors là, intérieurement, la réponse de Dieu m'a été donnée, mais nette, impérative, magnifique. Et puis après, cette sensation de bonheur a persisté un temps, puis elle est partie, mon sommeil a continué, et le lendemain matin, j'ai sauté du lit et j'ai couru prendre la Bible et regarder un passage que Dieu m'avait particulièrement signalé, et là, avec ce que Dieu m'avait dit, j'y ai trouvé la réponse. De Dieu. Réponse nette, réponse objective, réponse réaliste, car notre Dieu est réaliste. Moi, je n'aime pas quand on parle des réponses de Dieu qui sont équivoques ou qui sont imprécises. Ce sont des principes, certains principes. Non, non, devant une circonstance, devant une nécessité où se trouve son enfant, si Dieu a la liberté, si nous lui donnons la liberté de nous répondre, mais sa réponse sera nette, objective, précise, aujourd'hui comme il en fut autrefois. Alors, sachons cela, chers amis. Et le Seigneur de dire à Jacob, en somme, ne t'interroge plus, ne cherche pas à expliquer, il faut que tu descendes en Égypte, ne crains pas. C'est étonnant, bien sûr, j'ai appelé Abraham en Canaan, mais maintenant je te dis d'aller en Égypte. Et là, tu iras pour un temps, et j'y serai moi-même. Tu ne seras pas tout seul, moi j'y vais aussi. J'y serai, moi ton Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu qui poursuit ses desseins, j'y serai. Alors ne crains pas. Je serai là. Tu m'y trouveras. Tu m'y entendras, à nouveau. C'est magnifique ça, chers amis. Mais si Dieu nous dit d'aller quelque part, il sera là, avec nous. Il sera là. Il ne sera pas absent. Rappelons-nous ce que Moïse disait. Ah Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, alors ne nous fais pas partir d'ici. Restons là, ça vaut mieux. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir. Mais Dieu répond ensuite à Moïse, eh bien, écoute, moi, j'irai avec toi. Au début, il lui avait dit, j'enverrai un ange. J'enverrai un ange pour te conduire. Mais après, Dieu lui dit, non, j'irai avec toi, parce que je t'ai fait grâce, et parce que je te connais. Par ton nom, je te connais. C'est-à-dire maintenant, tu vois, je viens de nouer relation avec toi. J'ai relation avec toi, je te connais intimement. Nous sommes amis maintenant. Et je te fais grâce. Et alors, j'irai avec toi. Ben, Moïse, lui, il est lancé, il est parti, sa foi l'emporte, et c'est sa foi qui prend possession de ses paroles, de sa bouche, et puis alors il dit, ah bien Seigneur, puisque tu me fais grâce, puisque tu me connais par mon nom et que tu veux venir avec moi, alors maintenant, montre-moi ta gloire, Seigneur, dès maintenant, montre-moi ta gloire. Quelle demande, mais Moïse, tu dépasses les bornes. Allons, tu ne sais plus, tu ne te contiens plus, Moïse. Et Dieu de répondre, eh bien, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Sache cela, un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais tout de même, je vais passer devant toi. Voir ta gloire, c'était voir la personne de Dieu. Alors, je vais passer devant toi. Et c'est, vous savez, ce récit merveilleux qui nous est donné. Et qui aujourd'hui peut nous apporter encore bien des choses, mes amis. Alors, il cache Moïse dans le creux du rocher, là. Quand je passerai, je mettrai ma main, afin que tu ne me vois pas par devant. Mais quand j'aurai passé, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Oh, chers amis, Dieu est prêt à livrer, quoi donc, ses conseils, oui. Ses directions, oui, mais bien plus sa présence, son action. Il est prêt à tout ça, prêt à participer, lui, activement, avec ce qu'il nous demande de faire. Ce que Dieu ne redit pas ici à Jacob, mais il l'a dit à Abraham, c'est que le chemin de l'Égypte, c'est le chemin de servitude. C'est le chemin de l'épreuve. À Abraham, Dieu en avait fait la confidence. Il avait dit en effet ceci, et sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Opprimé, et c'est vers cette oppression que Jacob est envoyé. Ici, la chose ne lui est pas rappelée. Sans doute Dieu a préféré ne pas mettre ce côté de la chose, ce côté de ses desseins en lumière sur le moment. Mais cette épreuve était en vue, bien sûr, d'une délivrance, complète délivrance, corps et âme, car c'est toujours ce que Dieu veut faire. Le corps, il va délivrer le peuple d'Israël, certes, il va les faire sortir d'Égypte, mais il va délivrer leur âme aussi. Mais sur le moment, il y a quand même quelque chose qui est doux au cœur de Jacob, puisqu'il a la perspective de revoir, de retrouver Joseph, et cela est dans son cœur, évidemment, la cause d'une joie immense. Et avec la révélation, nous qui maintenant avons la révélation de tout cela, n'est-ce pas? Tout cela nous est raconté dans la Bible, et puis alors depuis la révélation de Dieu s'est prolongée jusqu'à arriver à l'Apocalypse où il nous est dit maintenant c'est fini, il n'y a plus un mot à ajouter, ni à retrancher. Voilà, la révélation est complète, mais nous qui avons la totalité de la révélation, nous voyons l'ensemble des desseins de Dieu. Nous voyons l'ensemble des intentions de Dieu, et nous comprenons ce que Jacob ne pouvait pas comprendre. Ce qui veut dire que, en ce qui nous concerne, nous n'en verrons pas peut-être davantage que Jacob. Dieu nous dirigera dans un sens, nous ne saurons pas, nous questionnons, nous dirons, mais pourquoi? Il ne faut surtout pas se questionner comme cela, mais nous serons peut-être étonnés. Et comment, moi je pensais que le plan de Dieu serait mieux servi maintenant en faisant ceci ou en allant dans ce côté, dans cette direction. Et donc justement, c'est d'un autre côté que Dieu nous dirige. Alors, son plan, Dieu, pourquoi change-t-il de direction? Nous ne voyons pas, nous ne voyons qu'un fragment du plan de Dieu, un tout petit fragment, celui qui occupe le moment où nous vivons, le moment où nous avons à obéir. Voyons pas l'ensemble. Tandis que maintenant, pour Jacob, nous, avec la Bible, nous voyons l'ensemble. Et alors, nous voyons en effet que il y avait des raisons que Dieu agissait selon de patentes raisons. Le séjour de la famille élue ne pouvait pas se prolonger, d'abord en Canaan, sans danger. En Canaan, 400 ans après, le comble aura été atteint. Et la décision de Dieu alors tombera sur ces peuples, sur ces 7 peuples. Ils devront être dévoués par interdit, mis à mort. Le comble est atteint, mais il ne l'était pas encore à ce moment-là. Seulement, le séjour du peuple élu était quelque chose de scabreux, de dangereux pour eux. Il y avait en effet une idolâtrie qui était sans frein. Et puis toujours avec l'idolâtrie, toujours la corruption vient. L'abandon de Dieu, l'idolâtrie et la corruption, tout ça, ça s'enchaîne. Et ça vient ensemble, comme l'histoire du veau d'or nous le montre bien. La corruption, et comme notre époque nous le montre. Alors, c'est dangereux. Vous savez que le Seigneur va juger dans un temps très certainement proche que le séjour sur la terre est dangereux pour nous et qu'il viendra nous chercher. Hein? Il viendra nous chercher. Il a fait sortir Lot et sa femme de Sodome. Et il nous fera sortir, nous, de cette société, quand il verra que c'est beaucoup trop dangereux, maintenant, pour des élus. Auparavant, il nous aura accordé sa protection, comme nous le voyons dans une lettre de l'Apocalypse. Il nous accordera sa protection contre la séduction qui remplit le monde entier, la terre. Mais quand cela viendra trop risqué, alors là, ce sera le moment de l'enlèvement. Il fallait donc que la famille élue sorte de Canaan. Et puis l'Égypte qui asservit les étrangers qui viennent en elle était le terrain de choix. Le terrain de choix pour le brisement du peuple, pour l'éducation de ce peuple par la souffrance. Le peuple n'était pas apte actuellement à former la nation que Dieu avait en vue. Il fallait son éducation par la souffrance. Le péché, pendant les 4 siècles de séjour en Égypte, le péché abondera. Mais la grâce de Dieu surabondera. Le péché abondera. Ils deviendront idolâtres encore, là, en Égypte. La grâce de Dieu surabondera. Le peuple d'Israël devra se former, là, en Égypte. Pour l'instant, il nous en est cité 70, mais ils deviendront, au bout de 4 siècles, plus de 2 millions d'âmes. Et pendant ce développement du peuple élu, eh bien, il faut qu'il y ait là une formation, une éducation, car ce peuple élu ne connaît pas et ne pourrait pas connaître le privilège de son élection autrement. Il faut qu'il apprenne à crier à l'Éternel. Il faut qu'il apprenne à crier à l'Éternel, comme dans le psaume 107. Et c'est lorsque Dieu entendra les cris de son peuple qu'il enverra Moïse comme libérateur. Et puis, il y avait ce séjour que Dieu avait en vue du peuple en Égypte sur la terre de Goshen, la terre de Goshen avec ses gras pâturages. Et cette terre sera propice au développement du peuple, au développement des troupeaux. Tout cela est inclus dans les intentions, dans les desseins de Dieu. Maintenant, cela nous apparaît à nous, mais Jacob n'en savait rien, lui, et pourtant, il obéit. Eh bien, chers amis, concluons maintenant par une leçon qui soit pour nous d'ordre pratique. Nous avons à chercher les directions de Dieu. Et je dis bien à la fin de ce temps de retraite, il faut que chacun de vous s'interroge dans la prière ou interroge Dieu. N'y a-t-il pas quelque changement à apporter dans ma vie, dans ce que je suis même, à tes yeux, Seigneur, n'y a-t-il pas des changements? Et le Seigneur pourra nous montrer les changements qui sont indispensables, nécessaires. N'oublions pas cette parole de l'apôtre Paul à une église qui a la foi pourtant. Soyez transformés. Soyez, le grec dit métamorphousté, soyez métamorphosés. Soyez changés, mais pourtant, ils sont des nouveaux. N'ont-ils pas connu un changement? Ce n'est pas suffisant. Ça n'est pas assez profond. Il y a eu l'amorce de ce changement, où il y a eu ce changement qui est allé jusqu'à un certain point. Et puis, certaines choses sont revenues comme pour le compenser, comme pour l'effacer en partie. Oui, mes amis, soyez transformés. Et puis dans ce même contexte, et Romains 12, il y a « offrez vos corps en sacrifice nécessaire ». Ainsi, le Seigneur donc a très certainement des directions pour nous dans le sacrifice. Ne redoutons pas de descendre en Égypte, ne craignons pas les temps d'épreuve. Dieu, lui, ne change pas, mais sa sagesse, c'est changer notre voie. Et comme nous le chantons dans un petit chœur ici, il sait très bien ce qu'il nous faut. Mais c'est facile de chanter ça. Quand on chante souvent des choses comme ça, je me dis, mais nous le chantons, oui, c'est très bien, les paroles s'envolent, verba volante, oui, c'est très bien. Et puis, qu'est-ce que nous en retenons pratiquement, d'ordre pratique? Je disais ce matin que les paroles du Seigneur Jésus tendaient toujours au réel, à quelque chose de pratique. Dieu sait très bien ce qu'il nous faut, alors demandons-lui ce qu'il nous faut. Attendons-nous à recevoir une vision dans un sens large. Je prends le mot dans son sens étendu. Je ne dis pas nécessairement une vision dans le sommeil, quoique cela soit inscrit dans les perspectives de la nouvelle alliance. Pas la nouvelle alliance, il y a des visions. Mais je dis une vision dans le sens étendu, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une vue sur le chemin que Dieu entend nous faire suivre. Une vision qui nous permette de marcher et qui nous tienne en haleine. Sans vision, le peuple meurt. Si le peuple est sans vision, s'il n'y a rien dans son cœur, si Dieu ne fait pas luire en lui sa face, « Ah Seigneur, disaient les Israélites, fais luire ta face et nous serons sauvés. » Si il n'y a pas cela, le peuple se laisse aller à la marche du temps, il laisse venir le temps comme il vient, et puis voilà qu'il s'endort, il tombe dans le sommeil, dans l'assoupissement. Ainsi donc, il nous faut une vision, et il nous faut entendre la voix du bon berger. La voix du bon berger, que cette voix que les brebis connaissent, et elles suivent le bon berger parce qu'elles entendent sa voix. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? Avons-nous les directions de notre Seigneur et Maître? Évidemment, si nous n'en avons aucun désir, si nous continuons notre vie comme ça, sans penser que Dieu a des intentions pour nous, que son plan et comporte peut-être des chemins que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons pas encore suivis, eh bien, il faut le lui demander, mes amis, il faut interroger Dieu. Nous prions Dieu, mais il faut l'interroger, il faut se mettre à sa disposition, être disponible, donner sa vie en sacrifice, et puis peut-être faudra-t-il une journée ou deux de prière, de jeûne, et puis attendre la réponse de Dieu, qui viendra peut-être par une vision de nuit, mais qui viendra certainement toucher le fond de notre conscience. Que le Seigneur le fasse et qu'il vous bénisse. Amen.